Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Émilie Valla, prise de son, Jacques Hubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre série sur les économies de l'Antiquité s'achève aujourd'hui. Hier, nous avons observé au plus près l'organisation économique et sociale des premières cités grecques. À présent, nous allons nous pencher sur la vie quotidienne sous l'Empire romain, depuis la naissance de l'Empire en 27 avant Jésus-Christ jusqu'au bouleversement de l'Antiquité tardive. L'insuffisance des sources sur le fonctionnement de l'économie romaine a laissé libre cours à toutes les hypothèses, certains historiens parlant de primitivisme et même de sous-développement, quand d'autres défendaient au contraire la théorie d'une économie moderne où une révolution industrielle aurait pu advenir. Alors comment se créer la richesse sous Auguste, Trajan et Dioclétien? C'est ce que nous allons voir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parcourir le monde romain en compagnie de Yann Le Boeck, historien, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne et auteur du Que sais-je, Histoire de la Rome antique, paru au PUF, en compagnie également de Jean Andreau, directeur d'études émérite à l'EHESS, auteur de L'économie du monde romain, paru aux éditions Ellipse. Et en fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Yann Le Boeck et Jean Andreau, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y a eu de nombreux débats historiographiques autour de l'économie du monde romain. Les historiens ont parlé d'archaïsme, de sous-développement ou au contraire de modernité. C'est avant tout le manque de sources qui explique l'existence de thèses aussi contradictoires, Jean Andreau.
Oui, certainement que le manque de sources est une des raisons, mais vous savez, même quand il y a beaucoup de sources, il y a toujours des débats, de toute façon, ça fait partie de l'activité d'historien de débattre.
Il faut y voir des visions idéologiques qui s'opposent ?
Oui, certainement. Il y a une comparaison implicite avec le monde moderne, depuis le XVIe siècle. Est-ce que l'Antiquité est plus archaïque que ce monde moderne du XVIe, XVIIe siècle, ou bien est-ce que c'est du même ordre, ou bien est-ce qu'au contraire c'était plus prospère?
Et alors, selon vous, est-ce que l'Empire romain, Yann Le Boeck, était plutôt du côté de la prospérité, plutôt du côté de l'archaïsme, s'il fallait trancher ce débat?
Eh bien, je vais me défausser en citant un de nos collègues qui n'est pas présent ici. On lui avait demandé dans un colloque s'il pensait que l'économie romaine était archaïque ou moderne. Il a répondu « elle n'est pas archaïque ». Elle n'était pas archaïque, elle n'était pas moderne, elle était romaine. C'est-à-dire qu'elle avait une spécificité qui ne peut pas être réduite à ce que disait Jean Andreau à l'instant, l'époque moderne, par exemple.
On se pose tout de même la question de ce qui explique la formidable expansion de la petite cité qui était Rome, et puis aussi de la longévité de l'Empire, alors que l'économie romaine était finalement assez semblable à celle des peuples voisins, Jean Andreau.
Oui, parce que au moment où Rome commence à ses conquêtes, c'est-à-dire au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, l'économie de la cité romaine est tout à fait comparable à des économies de cités grecques d'Italie du Sud ou de Grèce propre.
Donc une économie principalement agricole?
Oui, avec déjà des relations commerciales. Des relations commerciales, il y en a depuis déjà très longtemps, mais forcément une grande domination de l'agriculture, une grande prédominance de l'agriculture, des fabrications aussi.
Donc on ne peut pas dire finalement que l'économie a participé à ce phénomène d'expansion de Rome, Jean Andreau?
Ah, oui, ça a sûrement participé. C'est sûrement participé. Mais est-ce que au départ l'économie explique est la cause de la conquête Je ne dirais pas ça, mais enfin, ça peut se discuter, mais je ne dirais pas ça.
Yann Le Bouec, sur le rôle de l'économie dans la montée en puissance
de Rome. Je ne veux pas trop insister sur ce sujet parce que ça touche mes recherches personnelles, mais je vous rappellerai que l'expansion de Rome, qui est passée du stade d'une petite cité à un véritable empire, s'est faite en 4 siècles, que cet empire a encore duré 4 siècles et que ça s'explique par le rôle de l'armée romaine, hein, essentiellement. Oui. Je ne voudrais pas paraphraser un certain général, mais l'intendant se suivra, si vous me comprenez.
Et alors, comment définir le niveau de vie des Romains, au moins pendant les 2 premiers siècles de l'Empire, qui correspondent peu ou prou aux 2 premiers siècles de notre ère, Jean Andraud ? C'est un moment de relative prospérité, oui, quand même, pour les Romains ?
Alors, il faut évidemment distinguer des régions et des milieux. Et des milieux, évidemment. Et puis aussi des régions, parce que quand on dit l'Empire romain, il y a ceux qui sont citoyens romains et ceux qui sont des peuples qui sont des hommes libres, mais des peuples conquis. Bon. Mais ce sur quoi on insiste souvent et à juste titre, c'est que même ces peuples conquis, en tout cas les hommes et femmes libres. Profite de cette prospérité et de l'unification de la Méditerranée. Il y a eu dans les débats récents, il y a eu cette idée d'une que pour ma part je ne partage pas beaucoup, mais cette idée d'une première globalisation. Mais enfin, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a eu une unification de la Méditerranée et beaucoup de gens en ont profité.
On peut en tout cas caractériser cette période des 2 premiers siècles par rapport peut-être aux périodes de crise qui ont marqué la fin de la République au 1er siècle avant Jésus-Christ, ou les périodes de crise qui ont marqué le 3e siècle après Jésus-Christ.
Oui, c'est incontestablement une belle époque. Apparemment pour deux raisons. La première, c'est que le climat était très adapté aux productions agricoles, notamment. Et il ne l'était pas avant, il ne l'a pas été après. Il y a eu des changements, nous pourrons en parler tout à l'heure à la fin de notre entretien. Et puis d'autre part, parce qu'il semble, bien qu'on n'ait pas de statistiques, comme cela a été dit tout à l'heure, qu'il y ait un équilibre entre la démographie qui s'accroît avec une sage lenteur et les productions économiques qui apparemment les satisfont. Mmh. Maintenant, il est évident qu'il y a toute une hiérarchie. C'est une belle époque, mais pas pour tout le monde. Il y a une hiérarchie de gens qui profitent. Il y a des gens qui sont extrêmement riches. Nous savons qu'au temps de Néron, 4 propriétaires possédaient la moitié de l'Afrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Du Maghreb utile actuel. À côté, vous descendez, vous avez des simples sénateurs plus ordinaires, des chevaliers, des notables, des simples paysans. Il y a aussi, ça me fait penser aussi aux paysans de Maktar, hein. C'est une très belle inscription qu'on a trouvée en Tunisie qui dit qu'un paysan était très pauvre. C'était une manœuvre. Il a travaillé, économisé et il est devenu notable dans sa cité. Puis vous descendez en dessous de ces gens-là, vous avez les esclaves, ce qui n'est pas toujours une situation agréable.
Alors justement, on va s'intéresser maintenant au rôle des esclaves.
La culture s'exerce ou par des esclaves, ou par des hommes libres, ou par un mélange des uns et des autres. Les hommes libres qui cultivent eux-mêmes la terre sont pour la plupart de pauvres gens, aidés de leur famille ou de journaliers qui se chargent, moyennant salaire, de travaux tels que les vendanges et la fenaison. Il y a encore une 3e classe de gens employés aux travaux de la terre. Ce sont ceux que nos ancêtres désignaient sous le nom d'obérari, les travailleurs à forfait qu'on rencontre en grand nombre en Asie, en Égypte et dans l'Illyrie. Choisissez des sujets propres à la fatigue, au-dessus de 22 ans et qui montrent des dispositions pour l'agriculture. Prenez-les pour diriger des esclaves qui ne soient ni insolents ni timides, qui aient une teinture d'instruction, de bonnes manières, de la probité et qui soient plus âgés que ceux qu'ils surveillent. Ils en seront mieux écoutés. Cette position, par-dessus tout, exige l'intelligence des travaux rustiques. Car l'esclave n'est pas seulement là pour donner des ordres, il doit aussi mettre la main à l'œuvre, montrer par l'exemple ce qu'il faut faire, afin que ses subordonnés comprennent que ce sont ses talents et son expérience qui le placent au-dessus d'eux. Il ne faut pas permettre au chef d'employer les coups pour se faire obéir quand il peut arriver au même but par de simples remontrances. Évitez également d'avoir plusieurs esclaves de la même nation, car c'est une source continuelle de querelles domestiques. Il est bon de stimuler par des récompenses le zèle des chefs, de former un pécule, de leur faire prendre des femmes parmi leurs compagnes de servitude. Les enfants qui naissent de ces unions attachent les pères au sol, et c'est par suite de ces mariages que les esclaves d'Épire sont si réputés et se vendent si cher.
Voilà un extrait du traité d'agriculture de Varron, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur le rôle des esclaves dans l'économie romaine, Jean Andreau ?
Ah oui, il nous apprend un bon nombre de choses assez précises sur leur rôle dans l'agriculture. Et bon, les esclaves intervenaient dans la plupart des activités à Rome, dans le monde romain, mais notamment en agriculture. Et il nous parle justement de la différence entre les esclaves agriculteurs et les hommes libres agriculteurs, les hommes libres mais salariés agriculteurs. Et puis ces obérari ou obérati qui sont une catégorie intermédiaire.
Mais on aurait tort de penser, comme on a pu le penser, que seuls les esclaves avaient un rôle économique, Yann Le Boeck ?
Ah, il me semble, cela vient de vous être dit, il y avait des hommes libres, et je pense à beaucoup d'exemples. Alors, les esclaves travaillaient effectivement, surtout dans l'agriculture, notamment au deuxième, premier siècle avant notre ère, quand les généraux romains ont ramené de leurs conquêtes en Gaule, en Orient, etc., des masses invraisemblables d'esclaves qui ont mis en valeur leurs propriétés et qui ont provoqué une crise économique assez grave dans l'Empire romain. Mais ça a été marqué par des révoltes serviles, deux en Sicile, et puis la célèbre révolte de Spartacus. Et pour autant qu'on le sache, mais il faut revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, hein, nous manquons de statistiques, le nombre d'esclaves a beaucoup diminué, leur rôle dans l'économie a été moins important par la suite, et je pense à une tablette qui a été trouvée dans le sud de la Gaule, qui montre que dans une entreprise de céramique, il y avait des hommes libres et des esclaves qui travaillaient côte à côte. Et j'en ai déduit, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, il me semble, que les Romains n'avaient pas la même conception de la rentabilité que nous avons de nos jours.
Dans quel sens ?
Dans ce sens qu'ils ne cherchaient, à mon avis, ils ne cherchaient pas absolument la rentabilité, puisqu'ils étaient capables de faire travailler côte à côte un esclave et un homme libre. Cela dit, l'esclave, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme un cheval ou comme le moteur d'une voiture, hein. Si vous voulez qu'il marche, il faut mettre de l'essence dedans ou il faut le nourrir.
Et c'est pour ça que Varron, d'ailleurs, conseille d'employer plutôt des salariés saisonniers, parce que comme ça, on n'a pas besoin de les nourrir toute l'année, comme c'est le cas des esclaves.
Oui.
Jean Andreau.
Oui, oui. Alors, comme disait Yann Le Boeck, il y a eu une époque où il y avait un pic de nombre d'esclaves, le deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ, après certainement moins, ou en tout cas pas autant, oui, un peu. Mais d'autre part, il y a des différences de tâches, quoi. C'est-à-dire, il y a une réflexion, on voit dans Varron, on le voit dans les autres agronomes, les autres auteurs qui parlent de l'agriculture, l'esclave n'est pas forcément à mettre au même endroit que l'homme libre salarié.
Mais il peut être exécutant ou encadrant, c'est ça qui est intéressant.
Oui, oui, oui. Mm. Oui, il peut être exécutant ou encadrant. Alors, il peut aussi avoir un lot de terre et être une sorte de métayer, quoi. Mm. Et ça, un homme libre peut aussi avoir ce lot de terre. Et là aussi, il y a les deux possibilités.
Vous avez parlé, Yann Le Boeck, de la céramique. Et justement, quelle était la place de l'artisanat dans cette économie romaine ? Est-ce que l'on peut parler éventuellement d'une première forme d'industrie ?
Je pense qu'il faut faire recourir à une notion qui est celle du temps long. Depuis le néolithique, c'est-à-dire les environs de 11 000 avant Jésus-Christ jusqu'au 18e, 19e, voire 20e siècle, suivant les régions du monde, les humains ont mangé essentiellement du blé. Donc le blé était fondamental. Mais les hommes du néolithique ont également découvert la céramique, et la céramique était un produit qui avait un très grand nombre d'usages. Il servait à recouvrir les maisons éventuellement, à les protéger, mais il servait à la vaisselle de table. Il servait aussi de conteneur universel. C'était les boîtes de conserve de l'Antiquité qui ont été très bien étudiées par Madame Lobenheimer pour la Gaule, qui a bien expliqué cela, qu'on mettait tout dedans, du vin, de l'huile, des fruits au sirop, des légumes, toutes sortes de produits.
Sachant que les Romains possédaient les plus grands navires qui soient à l'époque et du coup pouvaient développer ce commerce, notamment le commerce du vin, Jean Andreau.
Oui, la taille des navires s'est beaucoup accrue au cours de l'époque romaine. On le sait par les épaves, par exemple. Et ces navires permettaient de transporter notamment du vin, de l'huile, mais aussi d'autres choses, y compris des choses évidemment qu'on n'a pas retrouvées, parce que les amphores se conservent beaucoup mieux que, par exemple, les textiles. Sûrement que les textiles étaient transportés dans des navires, mais on en retrouve guère dans les navires.
Je parlais d'industrie il y a un instant, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il existait de grandes concentrations, Yann Le Boeck, même si, il faut bien le dire, elles étaient très peu nombreuses, mais elles existaient.
Oui, bien sûr, la Gaule en particulier, à la Grovesanque, c'est de là que venait le document que j'ai évoqué à l'instant, le Zou, ensuite le nord de la Gaule, produisait énormément de céramique et on en a trouvé dans beaucoup de régions du monde. Je crois qu'on en a trouvé à Pompéi, il y a une caisse qui était emballée juste au moment où le Vésuve est en train d'éruption. On en a trouvé jusqu'en Pologne, hein, ce qui est bien au-delà de l'Empire romain.
Donc, il y a la céramique et puis il y a aussi la métallurgie pour les armes et les outils.
Alors oui, mais là il est assez difficile de voir d'où venaient tous ces produits, parce que bon, le fer n'était pas marqué souvent, le plomb l'était, oui, pas le fer, rarement, puis il était réutilisé, remployé. Donc nous avons des lacunes. Nous avons beaucoup de lacunes pour l'économie aussi, pour reprendre un petit peu ce qui était dit à l'instant, notamment sur les productions de céréales et sur les esclaves, parce que c'est un Anglais qui a dit « les esclaves, c'est comme le pétrole, ça disparaît sans laisser de traces ». Ils n'ont pas laissé de traces, et le blé aussi. On ne sait pas bien comment... en quelle quantité c'était produit.
Et c'est pour ça que ce sont les récits des révoltes d'esclaves qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus.
Absolument, oui.
Alors, Jean Andreau, on parlait du commerce. Quelles étaient les relations commerciales de l'Empire avec l'étranger? Avec qui est-ce qu'on commerçait?
Les relations... On sait un certain nombre de choses sur les relations avec l'étranger, mais... d'abord, quand on arrive au 1er, 2e siècle, au 3e siècle même après Jésus-Christ, forcément étant donné l'ampleur de l'Empire, ses relations avec l'étranger sont amenées à se réduire un peu, à se réduire en partie.
Bon. Mais on sait, par exemple, il n'allait pas plus bas que le Sahara, notamment.
Alors, il y a des relations avec l'Afrique subsaharienne. Notamment, on a parlé de mines d'or de l'Afrique saharienne, mais enfin, je pense pas que ce soit extrêmement important dans l'ensemble du commerce.
C'est alors, surtout avec l'Asie.
Il y a plus de commerce vers l'Est, vers l'Orient, oui. Alors, à la fois par la mer Rouge et les ports sur la mer de la péninsule arabique et les ports de l'est de la côte est de l'Égypte, et puis qui sont maintenant bien étudiés. Il y a eu de plus en plus de fouilles et de trouvailles de papyrus, etc.
Et est-ce qu'on
et
peut
puis
dire
aussi par le Moyen-Orient, le Proche-Orient actuel?
Et alors, est-ce qu'on peut dire, Jean Andreau, que la balance commerciale de Rome était déficitaire, si on peut employer ces termes?
Alors, il y a deux textes de Pline l'Ancien qui disent que Rome, qu'il y a beaucoup d'argent qui quitte le monde romain pour aller vers des pays étrangers pour payer les produits de luxe que Rome achetait à ces pays étrangers, jusqu'en Chine, la soie. Alors, il y a une discussion pour savoir si c'est une perte de, si c'est un déficit commercial ou si il n'a compté que les choses payées sans compter les choses vendues par Rome, parce qu'il y a à côté de ces achats, il y a des ventes. Finalement, ce n'est pas en tout cas un déficit commercial terriblement ressenti, puisque ça a duré deux ou trois siècles. Au premier et deuxième siècle, ce commerce est très florissant, semble-t-il.
Et ce qu'il faut dire aussi, Yann Le Boeck, c'est que il y a des axes maritimes, mais il y a aussi des axes routiers, et notamment des routes, un certain nombre de routes qui ont été construites par les Romains sur le modèle des routes étrusques, je crois.
Alors oui, les Romains ont construit des routes à travers tout l'Empire, bien entendu, pour des raisons administratives d'abord, parce qu'il fallait relier les capitales à Rome, pour des raisons militaires ensuite, il fallait relier la frontière militaire, la région militaire également à Rome, et évidemment les commerçants en profitaient, et de toute façon les administrations provinciales ou les notables de cité pouvaient faire construire les routes qu'ils voulaient, dont ils avaient besoin pour leurs activités. Mais alors, précisons bien, parce que l'erreur est répandue, que toutes ces routes n'étaient pas dallées. En général, elles étaient simplement damées. Le dallage ne se faisait que dans les villes et aux abords des villes.
Et c'est pour ça que c'était plus cher de passer par la route que de passer par la voie maritime ? Jean Andreau, est-ce qu'on estime que c'était plus cher ?
Est-ce que c'était plus cher ?
Difficile à dire, mais en tout cas, on peut dire que
je n'en sais rien.
On peut dire que c'était les chevaliers,
chevaliers. Nous n'avons pas de statistiques.
C'est-à-dire, c'est sûrement la voie maritime est sûrement plus commode. Mais Rome, il y a des historiens qui ont insisté sur le fait, je pense avec raison, que Rome a souligné beaucoup le rôle des routes. Pour les raisons que vient de dire Yann Le Boeck, notamment. C'est-à-dire que naturellement, la voie maritime s'impose davantage. Mais Rome insiste plus sur les voies terrestres que sur les voies maritimes.
L'image de la puissance de Rome, c'est sa capacité à consommer tous les produits qui viennent de partout dans l'Empire et même hors de l'Empire. Il y a un très beau texte des années 160 à peu près, qui est un texte d'un rhéteur grec d'Asie Mineure, Aelius Aristide, qui fait un éloge de Rome. Et dans cet éloge de Rome, il dit finalement, vous consommez les produits de la terre entière à un point tel, et on les trouve à un point tel chez vous, que même dans les régions de production, il n'y en a plus. Et on les trouve chez vous meilleur marché que partout ailleurs. Et donc, c'est l'image que la puissance de Rome, l'impérialisme de Rome, ça sert d'abord à consommer. C'est la capitale du luxe et c'est la finalité de la puissance, en quelque sorte, et de l'impérialisme. Ça ne serait pas donc à s'enrichir ou à faire travailler son industrie, son commerce, etc., ou vendre ses produits partout. C'est plutôt attirer les produits de partout.
L'historien Maurice Sartre dans l'émission Concordance des temps sur France Culture. La ville de Rome représentait un immense centre de consommation, à tel point qu'on a pu parler de ville parasite qui aspirait les ressources de la campagne, Jean Andreau.
Oui, la ville de Rome, on pense qu'elle comptait environ 1 million d'habitants, peut-être plus, au 1er siècle après Jésus-Christ ou au 2e siècle après Jésus-Christ. Il y a des évaluations qui vont jusqu'à 1 500 000 habitants. Et forcément, elle est parasite, en ce sens que il faut bien que ces gens-là consomment, et ils ne peuvent pas consommer, même s'il y a des activités dans cette ville de Rome, ils ne peuvent pas consommer seulement les choses produites à Rome. Rome comme ville, donc forcément il y a une exploitation de la campagne pour la ville de Rome. Et quand Aelius Aristide fait un éloge, forcément on voit bien qu'il s'intéresse particulièrement, il fait cet éloge dans la ville de Rome, mais il s'intéresse particulièrement à la ville de Rome, pas seulement à l'Empire, mais à la ville de Rome.
Aelius Aristide, qui est un rhéteur du 1er siècle après Jésus-Christ.
Du 2e siècle après Jésus-Christ.
Du début du 2e siècle.
Oui, voilà. Et qui vient d'Asie Mineure.
Yann Le Boeck, sur cette vision de Rome comme un immense centre de consommation.
Alors c'est incontestablement un immense centre de consommation. Rome attire des richesses de tout l'Empire sous deux formes. Il y a d'abord des achats, hein, tout simplement. On achète de la soie en Chine, on achète des produits de luxe qui viennent d'Alexandrie, qui était une grande capitale pour cela. Et puis d'autre part, il y a des produits qui sont fournis gratuitement. C'est ce qu'on appelle le service de l'Annone, qui est une administration qui est chargée d'apporter à Rome du blé qui est payé, versé par les provinces à titre d'impôt et qui aide à nourrir les habitants de la ville de Rome. Alors les habitants de la ville de Rome n'étaient pas totalement des parasites, hein, contrairement à ce qu'écrivent les esprits critiques et moralisateurs. L'État leur donnait du blé, comme l'a montré Madame Virlouvet, juste pour se nourrir quelques semaines par mois. Mais s'ils voulaient vivre un mois entier, il fallait qu'ils travaillent un petit peu. Et on a montré qu'il y avait à Rome quand même beaucoup de gens qui travaillaient. Et alors ces versements, ces impôts qui étaient versés par les provinces, cette nourriture gratuite, c'était une conséquence de la conquête. Hein, les Africains ont lutté contre Rome, ils ont été vaincus. Donc ils doivent nourrir les Romains et c'est bien fait pour eux.
On a en tout cas un débat qui divise les historiens, encore un, sur l'importance du commerce pendant ces deux premiers siècles après Jésus-Christ. Alors quel est votre point de vue sur la question et aussi sur la question de la liberté de commerce? Est-ce qu'on estime que le commerce était véritablement libre de l'influence de l'empereur Jean Andreau?
Alors sur la liberté du commerce, souvent on a opposé le début de l'Empire et la suite. C'est-à-dire, ça c'est une idée qui a été reçue, qui est encore reçue souvent, c'est l'idée qu'il y avait une grande liberté de commerce par rapport à l'empereur, etc., au 1er et 2e siècle, et qu'ensuite, les interventions sont de plus en plus fortes, et que
quand les crises arrivent,
l'idée reçue était que ce qu'on appelait le bas-empire, ou qu'on appelle l'antiquité tardive, c'était au contraire une époque d'interventionnisme très fort, de dirigisme très fort. Alors cette idée est très combattue, et le débat porte surtout sur ce qui se passe à partir du 3e siècle, parce que au 1er et 2e siècle, il n'y a pas tellement de gens qui pensent à un dirigisme, mais au 3e et 4e siècle, l'idée d'un dirigisme qui était très acceptée autrefois est très combattue depuis plusieurs décennies, et je pense en grande partie avec raison.
Et alors, quelle était l'influence de l'empereur pendant ce premier et ce deuxième siècle? Si jamais il n'y a pas de dirigisme, comment, quelle forme prend cette influence? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que en même temps, le patrimoine impérial ne cesse de croître.
Alors, le patrimoine impérial sert à entretenir la maison impériale, bien sûr, le palais, mais il sert surtout à entretenir l'armée. Mireille Corbier estime à 90% des revenus financiers qui sont détournés pour payer les soldes des militaires. Un auteur anglais a dit que c'était peut-être un peu excessif, mais enfin, on est quand même dans des revenus des sommes très élevées. Alors, à mon avis, l'empereur s'intéressait surtout, intervenait surtout dans les affaires dites régaliennes, hein, c'est-à-dire le maintien de l'ordre. C'est de toute façon, le mot ordo a été étudié. Les Romains étaient fanatiques de l'ordre. S'il n'y avait pas d'ordre, il fallait en mettre. Et s'il y en avait un, il fallait le respecter. Je crois que c'est comme ça qu'il concevait les choses.
Mais alors, est-ce qu'on peut tout de même parler d'une politique économique, par exemple?
Alors, l'empereur ne s'occupait pas de ces questions, sauf si ça créait des désordres. À un moment donné, probablement, il y a eu un problème de recrutement. C'est pourquoi l'empereur Trajan, au début du IIe siècle, a créé les alimenta, qui étaient destinés à nourrir des orphelins italiens. Mais on a très très peu, comme vous l'a dit Jean Droit à l'instant, on a très peu d'interventions de l'empereur dans ses affaires.
Alors on va voir s'il n'existe pas tout de même un certain nombre de mesures économiques. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Who's the boy you like the most? Is it teasing you with underage? Could he be waving from a tropical sunset? Static black silhouette somehow. Single in his bed someday. Quiet till it falls, falls, falls. Roam, 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 roam. Focus, looking forward. The Colosseum, oh no, what did I say? What can I say? Roam, roam, many tears have fallen here. I'll be driving, you look the other way.
Écoutez Rome de Phoenix sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre périple dans l'immensité de l'Empire romain avec Yann Le Boeck et Jean Andreau. Alors, comment les anciens désignaient-ils ce que nous nommons aujourd'hui économie, Jean Andreau, et est-ce qu'on peut parler de politique économique?
Alors, ils n'emploient pas le mot économie avec le même sens que nous. Économie est un mot grec qu'ils ont emprunté, mais pour eux, ça désigne la gestion des affaires familiales, la gestion de la fortune privée, et pas, ce n'est pas un mot très courant, et pas l'économie au sens où on l'entend nous. Alors ce qu'on entend nous par économie, ils le traduisent par des périphrases, des membres de phrases.
Qui désigne le travail, le gain.
Les choses nécessaires à la vie. Par exemple, dans Cicéron, on trouve des passages où il parle de ça, mais ce n'est pas une notion unifiée. Ce n'est pas une notion unifiée.
Et pour vous, parler de politique économique sous l'Empire romain, c'est un anachronisme?
Oui, moi j'aurais tendance à le penser. Tous les historiens ne sont pas absolument d'accord là-dessus, mais j'aurais tendance à penser que c'est un anachronisme. Oui.
Alors,
il y a des mesures économiques, mais pas ce qu'on peut appeler une politique économique.
Alors justement, sur ces mesures économiques, est-ce que cela passe notamment par la politique de défense qui constitue une part très importante, même considérable, du budget de l'Empire, Yann Le Boeck?
Je pense effectivement que l'armée romaine avait des besoins et que l'État s'est chargé de satisfaire ces besoins sous l'Empire. Alors nous savons qu'au début de l'époque républicaine, au début de la conquête, les soldats partaient souvent en campagne, la faim au ventre. Et à partir de Pompée et de César, c'est-à-dire au milieu du 1er siècle avant notre ère, dans le deuxième quart du 1er siècle avant notre ère, la logistique des armées, c'est le terme qu'il faut employer, a été bien améliorée. Les soldats de César en Gaule, à ma connaissance, n'ont eu faim que dans l'année 52, quand Vercingétorix a réussi à sa politique, sa tactique et stratégie de la terre brûlée. Et après, tout a été bien organisé. Alors, nous connaissons maintenant l'approvisionnement en huile des soldats de Germanie et d'Angleterre qui était faite depuis le sud de l'Espagne. Donc, dans le sud de l'Espagne, il y avait des grands propriétaires qui produisait de l'huile, la mettait dans des amphores et exportait ces amphores, les unes par la mer et les autres par la voie du Rhône jusqu'à la Germanie.
Mais alors, est-ce qu'il faut considérer, Jean Andreau, que lorsqu'une légion s'installe dans une région, ça produit des effets économiques et un développement local lié à cela?
Ah oui, certainement. Alors ça dépend si la légion s'installe de passage ou bien si elle s'installe durablement. Mais une légion qui s'installe durablement, par exemple, si elle a ces quartiers d'hiver là, et ça veut dire aussi des femmes, ça veut dire des enfants, ça veut dire des commerçants qui sont en relation avec la légion, qui vendent ou qui achètent, etc. Donc,
ce sont des milliers
d'hommes. C'est une véritable ville. Un Anglais qui a étudié ces choses-là, Whittaker, il disait, il faut se rendre compte qu'une légion qu'ils installent quelque part, c'est une nouvelle ville. Parce que c'est 20 000 personnes.
Et alors, il y a des mesures économiques aussi qui sont mises en place à travers la politique fiscale de l'Empire, Yann Le Boeck, un certain nombre de taxes qui sont mises en place.
Oui, j'allais en parler. Nous avons quelques inscriptions, et puis il y a des textes qui en parlent aussi, qui mentionnent des lois, ce qu'on appelle la Lex Portori, la loi des taxes qui indique combien il faut payer pour chaque produit. Alors on en a trouvé une en Afrique qui a été très très souvent étudiée, on la remet souvent sur la table parce que justement elle nous permet de savoir d'abord ce que les habitants de cette cité consommaient, ce qu'ils produisaient aussi, de voir d'où les produits qu'ils consommaient venaient. Ça n'empêchait pas le commerce, mais chaque fois qu'il y a évidemment une taxation sur un produit, ça diminue son attrait.
Il y a un contrôle par le biais de ces taxes et aussi par le biais de l'interdiction de la vente de certains produits, même si en général c'est moins pour des raisons économiques que pour d'autres raisons, Jean Andreau.
Oui, certainement. Alors, il y a les taxes dont Yann vient de parler, ce sont des taxes qui concernent, ça dépend, qui peuvent concerner une région ou une cité. Si c'est une cité, le contrôle il est fait au niveau de la cité. Bon, il y a une relativement grande autonomie des diversités. Par exemple, en Italie, il y a 400 cités, en Gaule, il y a une soixantaine de cités, etc.
Et au moins pour les deux premiers siècles, il y a un relatif équilibre entre les dépenses et les recettes.
Oui, je pense qu'en général, enfin, c'est assez difficile à dire, mais...
On estime que cet équilibre existe, Yann Le Boeck.
Vous parlez des dépenses et des recettes des individus ou des cités?
Des cités et d'une façon générale, du coup, de l'Empire.
Or, les cités les notables des cités dépensaient beaucoup d'argent pour construire des monuments, pour offrir des spectacles, et quelquefois ils faisaient des promesses qui dépassaient leurs possibilités, et ils ne les appliquaient pas, et alors les habitants pouvaient se plaindre auprès du gouverneur pour lui imposer de payer ce qu'il avait promis de payer.
Et puis peut-être que le contrôle passait aussi par le contrôle des mines. Les plus grands sites appartenaient à Rome, même s'il y avait aussi des mines privées, Jean Andreau.
Oui, dans les cités, comme Yann vient de dire, les cités étaient en partie financées par des taxes, mais étaient financées aussi par les dons. Il y avait ce qu'on appelle habituellement les vergétismes, c'est-à-dire les libéralités des puissants. Les puissants leur carrière était liée à des libéralités qu'ils étaient pratiquement obligés de fournir.
Et alors, est-ce qu'on considère les mines?
Passons aux mines. Les mines importantes étaient en général possédées par l'empereur ou par la cité de Rome. Les grandes mines étaient possédées par les pouvoirs publics au niveau de l'Empire.
Et alors, est-ce qu'on considère, Jean Andreau, que l'État romain jouait un rôle de régulateur économique, qu'il tentait de protéger le commerce, peut-être d'ailleurs plus dans l'idée de faire régner l'ordre que dans l'idée de promouvoir un développement économique?
Alors, je sais, il ne traduisait pas par l'idée de développement économique, mais il y a des textes qui montrent qu'il y a un souci de chacun dans l'Empire doit pouvoir se livrer à son activité, profiter de son activité, et l'empereur est là pour que chacun puisse profiter de son activité. Donc, il y a cette idée de la protection de chacun dans sa liberté individuelle.
On peut dire au moins, Yann Le Bouec, que le pouvoir a mis en place des conditions favorables au commerce, la stabilité, le fait de créer un immense marché.
Oui, c'est ce que l'on appelait depuis une cinquantaine d'années, et même depuis Tacite, si je ne me trompe, la paix romaine. L'absence de troubles à l'intérieur de l'Empire, ou de troubles qui étaient tout de même réduits, mais qui étaient minimes, a entraîné une prospérité, a facilité la prospérité. C'était une des conditions de la prospérité de tous les habitants à cette époque-là.
Et les grands travaux lancés par le pouvoir également ?
Non, le pouvoir n'engageait pas beaucoup de grands travaux. Comme vous l'a dit Gendreau tout à l'heure, ce sont les notables qui construisent leur cité. Pour faire carrière, bien entendu, comme il vous l'a dit, mais aussi on peut penser que c'est un petit peu pour calmer les pauvres. Hein, quand on offre un banquet, quand on offre une distribution, quand un riche offre un banquet, une distribution d'huile, ou un spectacle, des combats de gladiateurs ou autre chose, ça ne peut que satisfaire le peuple.
Mais ce n'étaient pas que les notables qui s'occupaient des grands travaux architecturaux.
Dans une ville de province, oui. Mm. Ah oui, oui. Les villes étaient construites par les notables à leur demande.
Mais pour ce qui est de Rome, est-ce que les grands travaux n'ont pas permis un certain développement économique ?
Le notable, c'est l'empereur.
Bien sûr.
Le notable numéro un, c'est l'empereur.
Mais quel développement économique lié à ces grands travaux, selon vous, Jean Andreau ?
Il y a de toute façon un développement de l'emploi. On a un texte qui dit ça explicitement, où Vespasien, on montre à Vespasien, un inventeur montre à Vespasien une possibilité pour faire une sorte de machine élévatoire. Et Vespasien dit, il faut que je donne du travail à la plèbe, je veux pas, donc il le félicite pour son invention, mais il ne veut pas l'utiliser parce qu'il dit je dois donner du travail à la plèbe.
Il y a un autre grand chantier qui a été suggéré à Trajan par Pline, c'est le canal qui relie le lac Sunonensis et la mer de Marmara. Oui. L'idée, c'est de faciliter l'acheminement des marchandises. Oui. Là, l'État joue véritablement un rôle de facilitateur du commerce.
Oui, bien sûr. Mais ce canal n'a pas été creusé.
Il y a eu une volonté, en tout cas, de jouer ce rôle-là.
Pline était pour, et l'empereur avait l'air favorable aussi. Mm.
Néron aussi avait le projet de créer un canal à Corinthe, avec le même résultat.
Mm. Non,
pour résumer, on ne peut pas parler de politique économique globale de l'Empire romain, mais simplement de petites mesures répondant à des besoins locaux.
Et plutôt aussi à l'échelle de la cité.
À l'évergétisme de l'empereur, qui doit se montrer quelqu'un de généreux et qui, de temps à autre, renvoie aux cités un peu de l'argent qu'il a reçu au titre des impôts.
Et alors, est-ce que l'État ne joue pas un rôle économique aussi lorsque la circulation de la monnaie connaît des soubresauts ? Est-ce qu'il n'a pas une marge de manœuvre à ce moment-là, Jean Andreau ?
Je pense que l'État s'intéresse à... Il m'a semblé que l'État s'intéressait non pas à la monnaie comme facilitateur économique, mais il faut que si la monnaie circule, il faut qu'elle circule de manière harmonieuse. Quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas que les paiements se bloquent.
En cas de trop forte dette, par exemple.
Alors, les interventions, ça peut être d'augmenter le nombre de monnaies, par exemple, pour éviter un blocage de la circulation monétaire.
On peut aussi prêter de façon gratuite des sommes d'argent ou rééchelonner les dettes, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toute une finance qui se développe à Rome.
Il n'y a jamais eu de totale abolition des dettes, mais il y a eu toute une série de mesures, au fur et à mesure des années. Alors, comme vous dites, rééchelonnement des dettes, même abolition partielle des dettes au 1er siècle avant Jésus-Christ, en 86 avant Jésus-Christ notamment.
Et ça, c'est absolument essentiel, Yann Le Bouec, parce que le développement du commerce a été largement favorisé par l'essor de l'économie monétaire.
Oui, incontestablement. Mais là encore, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. La monnaie sert en grande partie à payer les soldats. Et alors, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Jean Andreau. C'est-à-dire, quand vous avez un camp légionnaire qui s'installe quelque part, ça veut dire 5000 soldats. C'est des hommes qui ont entre 20 et 45 ans. qui sont bien nourris, qui font du sport, qui sont en bonne santé autant qu'on peut l'être à cette époque, et qui ont un salaire régulier. Alors, ajoutez au salaire régulier le prestige de l'uniforme, vous comprendrez qu'il y ait un certain nombre de jeunes femmes qui viennent s'installer à côté pour contracter des unions qui ne sont pas des unions légales, parce que le soldat n'a pas le droit de se marier, mais ils font comme si c'était légal. Hein. Sur les épitaphes, on trouve « à ma chère épouse, à mon cher mari, à mes chers enfants », alors que les enfants sont des enfants illégitimes. Donc vous avez des familles qui se créent, ajoutez-y les artisans et les commerçants qui viennent travailler pour les civils, pour les militaires. Ajoutez-y aussi des paysans qui viennent s'installer tout autour, parce qu'ils ont la sécurité que fournit l'armée romaine, et c'est un marché aussi pour leurs produits, pour leur surplus.
Mais alors cette prospérité dont on parle, on l'a dit, est surtout vraie pour les deux premiers siècles de notre ère, jusqu'à l'apogée de l'Empire romain, qui est souvent situé à la fin du IIe siècle.
Le déclin de la civilisation romaine n'a pas attendu la chute de l'Empire. En tant que système politique, l'Empire romain a survécu des siècles à son épanouissement culturel, alors que celui-ci était passé depuis longtemps. Dès le début du IIIe siècle, la littérature romaine était devenue stérile. L'art des juristes disparut avec leurs écoles, les poésies grecques et romaines s'endormirent dans leur dernier sommeil. L'historiographie s'étiola au point de disparaître presque entièrement, et même les inscriptions commencèrent à se taire. La langue latine se mit bientôt à dépérir complètement. Lorsque, un siècle et demi plus tard, la disparition de l'Empire d'Occident marquera la conclusion extérieure, on a l'impression que les barbares avaient depuis longtemps vaincu de l'intérieur. Aussi bien les grandes migrations n'entraînèrent nullement de conditions entièrement nouvelles sur le sol de l'Empire vaincu. Le royaume mérovingien, du moins en Gaule, commença par ressembler trait pour trait à la province romaine. D'où la question qui s'impose à nous, d'où vient ce crépuscule culturel de l'Antiquité ?
Voilà un extrait d'une conférence donnée par Max Weber en 1896, lui ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que vous inspirent ces propos de Max Weber, Jean Andreau ?
Je trouve ça extrêmement, extrêmement excessif et schématique.
De présenter ainsi le déclin à partir du IIIe siècle ?
Oui, parce que toute la première partie du IIIe siècle... ne révèle pas un déclin extrêmement marqué. C'est très difficile de dire que la langue latine disparaît, etc., etc.
Et sur le plan...
Après, il y a une grosse crise militaro-politique dans la deuxième partie du IIIe siècle. Mais enfin...
Mais sur le plan économique, on a tout de même une crise au cours du IIIIe siècle, même si ça va se résorber peut-être.
Oui, il y a une crise, surtout dans la deuxième moitié du IIIe siècle.
Ce qu'on sait en tout cas, c'est que en France, Henri-Irénée Maroux a choisi de renverser cette problématique du déclin avec son livre « Décadence romaine ou Antiquité tardive ». Yann Le Boëc avait cette idée de réhabiliter ce qu'on appelle le bas-empire.
Alors là, nous entrons dans un domaine très délicat et très conflictuel. Les gens qui citent Henri-Irénée Maroux, en général, ne l'ont pas lu. Parce que Maroux, ce qu'il dit, c'est que au IVe siècle, il y a un progrès énorme, une très bonne situation, un très bon état pour le christianisme. Et il dit très clairement, il écrit très clairement, qu'on ne peut pas étendre aux autres domaines de l'histoire cette affirmation. Il y a aussi un article, je crois que c'est d'Albertini, qui commente un petit village de Syrie, où les fouilles qui ont été effectuées dans un petit village de Syrie, qui au IVe siècle se porte économiquement très bien. Et lui aussi dit, bon, au IVe siècle, on voit que dans ce petit village de Syrie, tout va très bien, mais là encore, on ne peut pas l'étendre à l'ensemble de l'Empire. Et alors je voudrais revenir brièvement, si vous permettez, à la crise du IIIe siècle. Je crois qu'elle a commencé, en fait, qu'elle a pris ses racines, sa source, très tôt. Quand Septime Sévère augmente les salaires de ses soldats.
L'extrême fin du deuxième siècle.
Il augmente les salaires des soldats dans des proportions que malheureusement nous ne connaissons pas, mais qui sont très importantes. Son fils Caracalla augmente aussi ses salaires dans les mêmes conditions, avec les mêmes caractéristiques, proportion très importante, mais nous ne le savons pas dans les deux cas. En revanche, si nous étudions les monnaies, comme je l'ai fait un petit peu pour le IIIe siècle, nous constatons qu'il y a une crise des finances publiques. C'est-à-dire que l'empereur a promis de l'argent aux soldats et il n'a pas les moyens de le donner.
Et en revanche, vous parliez de reprise économique au début du IVe siècle qui ne serait que locale. Vous l'étendriez à l'ensemble de l'Empire romain ?
Ce n'est pas ce que j'ai dit, excusez-moi.
Non, bah vous disiez qu'en tout cas, il y avait des travaux qui avaient montré que, voilà, que c'était vrai au niveau local et que, oui, certains avaient considéré qu'il ne fallait considérer que c'était que local.
Voilà. Non, au début du IVe siècle, je pense que nous sommes tous d'accord, à l'époque de Dioclétien, il y a une reprise de l'économie après la crise de la deuxième moitié du IIIe siècle. Mmh. Et puis c'est après que les choses se gâtent et sont plus difficiles à analyser, plus conflictuelles entre historiens.
Et en même temps, on assiste à cette période, à un retour du troc et à une inflation très forte, Jean Andrault.
Alors, il y a une période d'inflation très forte, oui, à la fin du IIIe siècle. Retour du troc, alors ça, c'est dans Max Weber, ça?
Ah, je ne sais pas, je ne saurais vous dire.
Je ne sais pas s'il en parle. Ça, c'est vraiment caricatural, je crois.
Enfin, il n'y a pas des soldats qui se mettent à être payés plutôt en nature, plutôt qu'en monnaie.
Est-ce que les soldats sont payés en nature?
Ah oui, les soldats sont souvent payés en nature.
Mais est-ce que c'est
à partir de cette
époque-là
période,
ah si, si, c'est caractéristique au IVe siècle, justement. Oui. Ils ont un salaire et on calcule la valeur de vêtements qu'on leur donne, la valeur de blé qu'on leur donne, de façon à ce qu'ils touchent leur salaire, si vous voulez, mais petite partie en argent liquide, en pièces d'or ou d'argent, et le reste en nature.
Et en tout cas, c'est une période, cette fin du IIIe siècle,
du début du IVe siècle,
c'est une période qui est marquée par les invasions des Goths, des Vandales, entre autres. Et donc, on peut dire que c'est une crise qui a des origines militaires, mais qui a des conséquences économiques, Jean Andrault.
Oui, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'influence de ces invasions sur l'économie?
Au IIIe siècle, il y a sûrement de grandes destructions. Par exemple, en Gaule, par exemple, il y a dans tout le nord de la Gaule, il y a des régions. Ça dépend d'ailleurs des régions, parce que c'est une source des divergences entre historiens, parce que ceux, par exemple, qui s'occupent de l'Afrique du Nord, sont contre l'idée d'une crise. Parce que l'Afrique du Nord reste très prospère à cette époque.
Et sans même parler de l'Empire romain d'Orient qui connaît une grande prospérité à cette
ensuite,
époque-là.
Ensuite, alors à partir du 3e, 4e siècle, il va y avoir un décrochage des deux parties de la Méditerranée et l'Empire romain d'Orient continue. Alors que l'autre disparaît,
ce qui pose...
l'Orient continue jusqu'à 1453, pardon.
Et l'arrivée des Ottomans, mais alors, Yann Le Boeck, comment expliquer que ce soit cette date de 476 qu'on ait retenue pour marquer la chute de l'Empire romain d'Occident? Et est-ce qu'il faut justement parler d'une chute ou d'un transfert de pouvoir plus progressif?
En 476, l'Empire romain disparaît. Le dernier empereur, qui était une nullité... Romulus Augustule, pour ne pas le nommer, je n'osais pas, je voulais être gentil avec lui, donc est déposé, et les ornements, les insignes royaux sont renvoyés à Constantinople. Cette crise est déjà antérieure, le 5e siècle, c'est une période de crise. Mais alors justement, vous avez ce que j'appelle les intégristes du marouisme, si vous me permettez cette expression, qui essaient de sauver même le 5e siècle. Il y a eu un colloque qui était organisé par des Anglais sur la Gaule au 5e siècle, Fifth Century Gaul, que Jean Andrault connaît certainement très bien, et dans lequel il y a eu un article de Hugh Elton qui m'a beaucoup amusé, parce que parfois il dit il y a une crise au 5e siècle, et parfois il dit mais non, il n'y a pas de crise. Et tous les intervenants vont de la notion de crise à de la notion de non-crise.
Mais ce qu'on peut dire pour conclure, parce qu'on arrive vraiment au terme de cette émission, Yann Le Boeck, c'est que même si des causes économiques ont été régulièrement avancées pour expliquer le déclin de l'Empire, ces causes-là vous semblent relativement marginales?
Les causes économiques, oui. Ce sont, à mon avis, essentiellement des causes militaires.
Vous partagez le même constat, Jean Andrault?
Oui.
On peut parler de causes militaires et d'un transfert de pouvoir davantage progressif dans d'autres...
Causes militaires et politiques.
Ouais.
Bien entendu, l'armée n'étant que l'instrument du pouvoir civil.
Eh bien, un grand merci à tous les deux, ce sera le mot de la fin. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du retour de l'encadrement des loyers.
Mais oui, l'arrêté a été signé mardi 28 mai par le préfet de la région Île-de-France afin de renouer avec la limitation des loyers. C'est ainsi l'énième rebondissement de cette saga qui avait commencé en 2014 avec le vote de la loi Allure qui visait à lutter contre les loyers prohibitifs sur des petites surfaces dans les grandes villes. En clair, le 9 mètres carrés à 600 euros, si fréquent sous nos latitudes capitales. Mais cette avancée dans la lutte contre le logement hors de prix avait été torpillée dans les règles de l'art par le Premier ministre de l'époque, un certain Manuel Valls qui, en limitant le plafonnement à la seule capitale, avait signé l'arrêt de mort de la mesure. Mais le 6 juin dernier, nouveau rebondissement, le Conseil d'État décide que l'encadrement des loyers est finalement bien légal. Selon lui, l'encadrement peut bien se limiter aux portes de la capitale tant que cela ne représente pas de risque sérieux de distorsion vis-à-vis du marché immobilier des secteurs limitrophes.
Entre-temps, le gouvernement actuel a fait voter la loi Elan qui réintroduit à titre expérimental et pour une durée de 5 ans un encadrement des loyers.
Exactement, un loyer de référence est ainsi fixé par arrêté préfectoral en fonction du type de logement et du secteur géographique. Le propriétaire peut ensuite fixer un loyer jusqu'à 20% au-dessus de ce prix de référence. Mais nouveauté de la loi, les propriétaires récalcitrants pourront désormais être sanctionnés jusqu'à 5000 euros pour les personnes physiques et 15000 pour les personnes morales. Mais comme le remarque Le Monde, les propriétaires gardent la possibilité de fixer un complément de loyer si la localisation ou le confort du logement le justifie. En clair, la simple présence d'une machine à laver peut justifier une augmentation significative du loyer. Les communes intéressées doivent donc demander la mise en place de ce plafonnement des loyers. Pour être éligibles, les communes doivent néanmoins connaître une situation de logement insuffisant et de loyers très élevés dans le parc privé. Autant dire que Paris est plus que légitime pour bénéficier d'un tel dispositif.
Il faut dire que l'Île-de-France est de longue date l'une des régions les plus inégalitaires de France.
Oui, c'est ainsi la conclusion d'un rapport de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme publié le 3 juin dernier. Celui-ci rappelle l'importance du prix de l'immobilier dans l'explosion des inégalités. Ainsi, entre 1999 et 2018, le prix des logements anciens a été multiplié en moyenne par 3 alors même que les revenus des ménages n'ont progressé que de 50% sur la même période. Autant dire que face à un tel choc, seuls les plus riches ont eu la capacité de faire face et de rester dans la capitale. Les classes moyennes, les jeunes cadres ont donc commencé à migrer vers des arrondissements plus populaires et des communes de la périphérie, chassant toujours un peu plus loin les populations les plus pauvres. Mais comme le souligne l'étude, le véritable problème ne réside pas seulement dans cette migration des bobos, mais bien dans la paupérisation croissante des espaces les plus pauvres. En clair, Paris est en train de devenir peu à peu un ghetto pour riches, quand dans le même temps se forment à ses portes des poches d'extrême précarité.
L'enjeu est donc, selon ce rapport, de garantir l'accès des classes moyennes et populaires au logement à Paris.
Oui, sans quoi la ville capitale se transformera inexorablement en grande artère commerciale, lieu de refuge et d'entre-soi pour les plus riches. Comme le relève l'essayiste libéral Robin Rivaton, le risque est de voir disparaître toute une fraction de la population pourtant essentielle au fonctionnement et à la diversité de la métropole. Alors bien sûr, la limitation des loyers est un outil efficace et nécessaire, mais il doit se doubler d'un effort renouvelé dans la construction de logements sociaux et dans la lutte contre les logements vides qui représentent près d'un quart des habitations disponibles dans le centre de Paris.
On se quitte avec le titre Romulus de Soufiane Stevens. Merci beaucoup Yann Le Boeck et Jean Andreau de nous avoir accompagnés aujourd'hui tout au long de cette émission. On se retrouve demain pour un débat sur un sujet d'actualité économique et c'est la nouvelle crypto-monnaie de Facebook, le Libra, qui nous intéressera. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.